Radio Star Berlin.
Morning edition.
Die
Dienst
an
Radio. France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous découvrons donc ensemble le nouveau visage de la Commission européenne, ensemble et dans le détail surtout. C'est l'occasion de rappeler à quoi elle sert et pourquoi sa couleur est si importante. Le bruit du monde est entre la Chine et la Corée, avec les autorités chinoises qui harassent les transfuges de Corée du Nord, qui les traquent et les renvoient chez eux. Amélie Perrier nous emmènera également notamment à un concours de beauté d'albinos. Ça se passe au Malawi. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec une affaire de dentifrice. Entre autres, 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four au Rwanda qui, en quelque sorte, est en train de servir de hotspot pour les réfugiés en Afrique. Et on vous explique comment ça marche. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Un jour dans le monde.
Bonsoir Éric Maurice.
Bonsoir.
C'est vous le responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman avec Angélique Boin à Bruxelles qui est près de vous, qu'on salue aussi au passage. On va jouer à qui fait quoi, Éric Maurice, dans cette nouvelle commission. On dit, avant que cette négociation était difficile et même qu'elle s'est jouée jusqu'au dernier moment, qu'est-ce qui a été difficile à négocier? Est-ce que vous étiez un peu sous la table pour pouvoir nous éclairer là-dessus?
Alors, j'étais, disons, en dehors de la salle, mais ce que l'on sait, c'est que la formation d'une commission européenne est un très délicat exercice d'équilibriste pour la présidente von der Leyen, puisqu'il faut mettre en place 27 commissaires qui viennent de
27
pays. Voilà, 27 pays qui viennent de grands États, de petits États, qui sont nommés par des gouvernements de gauche, de droite, libéraux, qui tous veulent un portefeuille important, qui viennent de familles politiques différentes, le centre droit, le centre gauche, de l'Est, de l'Ouest, de l'Europe, du Nord, du Sud. Et donc, il faut contenter tout le monde et c'est ça qui est très difficile. Jean-Claude Juncker, donc le président de la commission sortante, avait dit que 28 portefeuilles, puisqu'il y avait le Royaume-Uni à l'époque, là il n'y a pas de commissaire britannique pour l'instant, 28 portefeuilles c'était trop pour tous les commissaires. Mais finalement quand on a 27 personnes, eh bien il faut les occuper à des choses utiles pour l'Europe utiles pour leur ego aussi. Voilà.
Il faut les occuper, je ne suis pas sûr que ça joue en faveur de l'Europe, cette phrase Éric Maurice.
Puisque ce qu'a trouvé Ursula von der Leyen, c'est finalement organiser tout ce jeu d'équilibre autour des grandes priorités qui ont été définies par les chefs d'État.
Alors voilà. Et on va y venir juste en un mot quand même. On dit quand même que là, elle a été plutôt habile politiquement. Est-ce que vous diriez qu'effectivement, il y a eu cette habileté politique? Parce que il faut rappeler quand même, on va venir à l'environnement tout à l'heure, avec notamment Timmermans et avec d'autres. Elle était entourée de gens qui voulaient son boulot quand même à cette dame. Donc est-ce qu'on peut dire que politiquement, elle a été plutôt très habile ou pas?
Oui, on peut dire qu'elle s'en sort bien puisqu'elle a nommé trois vice-présidents exécutifs. Deux d'entre eux, le néerlandais Timmermans et la danoise Vestager, étaient des concurrents directs. Et le troisième est un commissaire sortant qui était vice-président à l'euro et donc qui devient lui aussi vice-président exécutif. Donc elle a trois poids lourds dans sa commission. Et ensuite, elle a nommé cinq vice-présidents qui viennent de différentes parties de l'Europe. Et ensuite, le gros des troupes des commissaires qui, eux, se partagent toutes les attributions en fonction de ces 3 plus 5 grands thèmes qui ont été définis par Ursula von der Leyen. Donc on peut dire que tout le monde est à peu près contenté en termes de responsabilité.
Alors, grand thème, vous l'avez dit, il y a le portefeuille de Frans Timmermans notamment, le fameux Green Deal européen, la promesse d'un premier État climatiquement neutre, c'est dans l'air du temps, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que la crainte n'est pas qu'on soit dans une forme d'effet d'annonce? Quel poids il peut mettre Frans Timmermans et aussi la Commission pour éviter de buter de toute façon tout de suite sur la souveraineté de chacun des pays? Comment on fait pour avoir une vraie politique verte, parce que visiblement c'est ce qu'elle veut faire à l'échelle de l'Europe?
Alors ça se joue à plusieurs niveaux. Premièrement, vous l'avez dit, c'est Frans Timmermans qui a le portefeuille. C'est un commissaire sortant qui était le premier vice-président de la commission sortante qui s'est fait une réputation sur la question de l'état de droit et donc qui est assez respecté, qui a du poids politique. Ensuite, cette commission, elle est portée aussi par une dynamique politique en faveur du climat qui a été vu lors des élections européennes, donc qui se sent au Parlement européen, qui se sent aussi dans les priorités politiques portées notamment par la France au sein du Conseil, donc qui représente les États membres. Et puis surtout, il y a une stratégie de faire rentrer dans ce slogan du Green Deal, faire rentrer des politiques très concrètes. Le transport, l'énergie, l'industrie, évidemment, l'agriculture qui va jouer un grand rôle. Et donc là, de manière sectorielle, laquelle on va réfléchir ce qu'on peut faire concrètement dans les politiques européennes. Et c'est aussi une question de fonds européens. Mmh. Donc les États seront associés parce que c'est aussi leur prospérité économique qui est en jeu.
Et j'allais vous poser la question, comment ça se finance, hein, ce fameux Green Deal ? Le budget, ça va être un énorme morceau à venir, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais comment ça se finance, ce fameux Green Deal, pour l'instant ?
Alors d'une part, vous venez de le mentionner, il y a le budget pluriannuel de l'Union européenne qui est toujours en discussion, qui doit démarrer en 2021 jusqu'en 2027. Il y a aussi le budget de recherche et développement, mais qui sera aussi beaucoup axé sur les questions numériques, d'intelligence artificielle, donc il faut voir comment on peut l'affecter aux questions énergétiques. Il y a aussi le budget de la cohésion, et Ursula von der Leyen veut mettre en place un fonds de transition juste pour que tout le monde bénéficie à la fois de ce plan de transition, mais surtout ne soit pas laissé en arrière dans cette évolution technologique et économique. Et donc forcément, il va y avoir des discussions entre États membres pour mettre l'argent sur ces priorités-là. L'agriculture aussi est un gros morceau des négociations budgétaires, mais si on l'inclut dans ce Green Deal, ça pourra rentrer en compte. D'autre part, il y a des revenus qui peuvent être créés. La Commission veut mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Elle veut aussi mettre une taxe en place sur l'énergie qui n'est pas encore très claire.
Soutenue par la France d'ailleurs au passage, voilà. Sur la fameuse taxe carbone aux frontières de l'Europe.
Oui, c'est une des propositions d'Emmanuel Macron qui devient une proposition de la Commission européenne. Et puis, il y a encore proposition d'Emmanuel Macron, l'idée, la volonté de créer une banque du climat qui en fait est utiliser la Banque européenne d'investissement pour l'axer beaucoup plus sur les investissements climatiques.
Donc pour j'ai un chiffre sous les yeux qui parle de 1000 milliards d'euros pour les 10 ans à venir.
Oui, ça c'est le chiffre qu'avait évoqué Ursula von der Leyen lorsqu'elle a dû demander les suffrages des parlementaires européens qui étaient juste après les élections très volontaristes sur le climat. Aujourd'hui, le chiffre, évidemment, il va falloir le mettre face d'abord aux propositions concrètes et puis aux capacités de financement
face
à la fois
États.
Des États et des possibilités d'investissement. Donc il y a aussi un gros travail d'inciter les acteurs publics et privés à contribuer à ce plan d'investissement qui ne soit pas simplement de l'argent public.
On a parlé tout à l'heure dans le journal de 18h, j'insiste pas dessus, sur le poste de Margrethe Vestager et notamment la place importante du numérique, vous l'avez un petit peu évoqué aussi. Est-ce que la France a sa place telle qu'elle la souhaitait finalement avec Sylvie Goulard ? Et c'est une question à deux entrées, Éric Maurice, parce que elle a été entendue par la police ce matin, Sylvie Goulard, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour un démarrage de commission, non, sincèrement.
Non, alors c'est
même
vrai
si on est dans d'autres sujets, peu importe, mais l'affichage est pas le bon.
Tout à fait. Sylvie Goulard est quelqu'un que tout le monde reconnaît comme quelqu'un de très compétent, de très au fait des affaires européennes et qui ferait une très bonne commissaire. Mais il y a effectivement cette affaire des assistants parlementaires qui pourrait et qui la mettra certainement en difficulté lors de l'audition face aux députés européens à la fin du mois ou début octobre.
Est-ce que c'est un motif d'être retoqué réellement ? Parce qu'il faut le dire aussi, donc il y a un passage, vous l'évoquez, devant le Parlement. Ça veut dire qu'il y en a certains là qui vont pas passer le barrage du Parlement. On parle peut-être de la commissaire roumaine. Est-ce que là, en l'occurrence pour Sylvie Goulard, il y a un risque qu'elle ne passe pas ce passage-là, si je puis dire ?
Alors, on peut dire que c'est une sorte de poids lourd politique dans la commission. D'abord par son profil, ensuite c'est la commissaire française qui vient du parti du président français et du parti qui est clé au Parlement européen depuis les élections du mois de mai. Et puis souvent, c'est une question de personnalité et de compétence. Et Sylvie Goulard a cette compétence. Donc ensuite, il faudra voir si les députés ou une majorité des députés, non pas de la Chambre entière, mais de la commission ou des représentants des commissions segmatiques qui vont l'interroger. Est-ce que eux voudront faire une question cruciale de cette affaire-là ? Je ne pense pas, mais elle aura des questions là-dessus de toute façon.
Il y a un autre pays sur lequel je voudrais qu'on jette un œil attentif, Éric Maurice, c'est l'Italie qui se retrouve avec qui est désormais commissaire à l'économie. On sait bien les problèmes de budget, le bras de fer même qui a eu lieu entre l'Europe et l'Italie. On sait aussi que l'Italie a changé politiquement très récemment. Cette nomination, est-ce que c'est une manière de dire à l'Italie bon retour parmi les pro-Europe ou de se mettre peut-être un garde-fou s'il y avait un prochain bras de fer ? C'est quoi le message de la Commission ?
C'est un peu des deux. Alors, on se souvient que le commissaire sortant sur ces questions-là, c'est Pierre Moscovici, le français. Et en 2014, la France était un peu un des États membres malades qui avait du déficit, qui était en procédure de déficit excessif. Donc, il y a une sorte de responsabilisation de l'État membre lorsque on nomme son représentant à ces affaires-là. Sur l'Italie, effectivement, il y a la question que c'est bienvenu de nouveau dans la famille européenne. Et puis, l'Italie, avec d'autres pays, notamment la France, pousse pour une plus grande flexibilité des règles européennes sur la dette, le déficit.
Mais tout le monde d'ailleurs, non ?
Voilà. Oui, c'est une des priorités de la Commission européenne. Donc lui, il va porter cela, accentuer les capacités d'investissement, faire preuve d'un peu plus de compréhension. Et puis pour l'opinion publique italienne, il y a aussi une grande part de psychologie collective, ce qui est de leur dire, vous voyez, on vous écoute, et ce sera peut-être plus difficile pour les opposants, et notamment Matteo Salvini à Rome, de dire que l'Union européenne joue contre l'Italie, puisque ce sera un commissaire italien. Alors rappelons quand même, c'est très important sur toute cette discussion, que les commissaires des États membres ne représentent pas leur pays. Ils laissent leur chapeau national à la porte du Berlaymont, le siège de la commission. Mais il y a toujours une dimension symbolique et psychologique sur le fait qu'un Italien va essayer de à la fois trouver cet équilibre entre d'un côté la discipline chère à l'Europe du Nord et une sorte de plus grande souplesse, non pas de laxisme, mais de souplesse pour favoriser la croissance.
Et vous le disiez, un commissaire effectivement en quelque sorte perd sa nationalité lorsqu'il est à la commission, mais c'est valable aussi pour la patronne de cette commission. Je pense aux négociations par exemple commerciales avec les États-Unis, avec l'accord sur les droits de douane dont le moratoire sera fini au mois de novembre. Il risque d'y avoir des conséquences, y compris des conséquences industrielles, avec le risque peut-être, vous allez nous le dire, que von der Leyen tire une balle dans le pied de son propre pays, l'Allemagne, non ?
Oui, mais comme vous l'avez dit, elle est présidente de la Commission européenne, donc représentante de l'intérêt général. Et alors, sur les négociations avec les États-Unis, évidemment, elles sont très importantes, mais les défis majeurs sur les questions commerciales globales pour l'Union européenne, c'est plus la Chine que les États-Unis. Et puis, à court terme, plus près de l'Europe, il faut voir aussi comment et quand le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne et quel accord on pourrait éventuellement négocier avec eux, quel concurrent le Royaume-Uni pourrait devenir. Donc finalement, la question d'un accord éventuel avec les États-Unis et de représailles éventuelles de Donald Trump, je ne dis pas qu'elle est secondaire, mais en tout cas, ce ne sera pas la question principale dans les années qui viennent.
Vous avez évoqué le Brexit. Tiens, d'abord, une subsidiaire avant qu'on rentre dans le vif du sujet du Brexit. Lorsque Sylvie Goulard est notamment en charge de la circulation des biens et des personnes, est-ce que ça veut dire qu'elle est en première ligne sur la négociation du Brexit ? Au fond, à la Commission, vous allez me dire, beaucoup de monde, mais qui a vraiment ce dossier réellement en ligne de mire ?
Alors, si on regarde la date du 31 octobre, qui est la date de sortie telle qu'elle est fixée pour l'instant, le négociateur, c'est Michel Barnier.
Certes, oui.
Il a son équipe de négociateurs et il rend compte au gouvernement. Il n'y a pas de commissaire pour l'instant qui traite de la négociation du Brexit.
La négociation du Brexit, mais l'après.
Voilà, c'est ça. Par contre, une fois qu'on passe le 31 ou la date de là, ce sera d'une part le commissaire au commerce, donc l'Irlandais Phil Hogan, et ensuite il y aura les questions d'échange de données, il y aura les questions de... Tout dépend en fait de comment les Britanniques veulent sortir. Pour l'instant, ils veulent sortir du marché unique et de l'union douanière. Donc le marché unique ne concernerait pas Sylvie Goulard en cas de négociation future. Ce serait comme une négociation avec un État tiers, comme avec le Canada ou, en l'occurrence, les États-Unis, comme on en parlait. Et là, un commissaire au marché intérieur, il a son mot à dire parce que c'est un fonctionnement collégial entre les 27 commissaires, mais elle ne serait pas engagée directement dans les négociations, puisque les négociations commerciales sont une compétence de la Commission européenne.
Vous parliez donc effectivement, évidemment, qu'il n'y a pas de Britannique dans cette commission-là. Qu'est-ce qui se passe si l'Angleterre est pas sortie au 31 octobre.
Alors, Ursula von der Leyen a laissé entendre aujourd'hui, dans sa conférence de presse, que les Britanniques, dans ce cas, devraient nommer un commissaire européen, de la même manière qu'au printemps, on leur avait demandé, en cas d'extension, qu'ils seraient obligés de faire les élections, d'organiser les élections européennes. Tout dépend, en fait, de la longueur de cette extension. Si c'est pour 2 ou 3 mois, qui est un peu l'option sur la table, on peut tout à fait imaginer qu'on considère cela comme une vacance de commissaire. Par exemple, depuis le 1er juillet, l'Estonie et la Roumanie n'ont plus de commissaire, puisque leur commissaire en place sont devenus députés européens. Et ça ne gêne personne que depuis 3 mois, il n'y a pas de commissaire de ces pays-là. Donc, si on se dit que le Royaume-Uni sort en décembre ou en janvier, on peut très bien se passer d'un commissaire. Mais bon, du point de vue d'Ursula von der Leyen aussi, c'est aussi le début de la négociation des Européens En cas de discussion sur l'extension, il faudra poser des conditions. Et voilà, c'est pour dire aux Britanniques, ça ne sera pas à un coût neutre d'essayer d'étendre ce délai.
Mais ça veut dire que si on renégocie, parce qu'après tout, il y a plein de si derrière ce Brexit, si on renégocier, ça peut là, pour le coup, prendre vraiment beaucoup plus de temps. Dans ces cas-là, on fait quoi? On prend un commissaire intérimaire, en quelque sorte, qui va rentrer-sortir, un peu comme les Anglais eux-mêmes? Ça se passe comment, en fait?
Il y a une possibilité, c'est de maintenir en place le commissaire sortant, Julian King, qui est en fonction jusqu'au 31 octobre, qui est en charge de l'union de la sécurité de l'Union européenne. Le gouvernement peut aussi, de Boris Johnson, peut aussi nommer un commissaire temporaire, si on est dans ce cas de figure-là. Voilà. De toute façon, ce n'est pas clair. Encore une fois, tout dépend du temps pendant lequel les Britanniques seraient encore dans l'Union européenne.
Si quelque chose était clair autour du Brexit, surtout n'hésitez pas à me le dire. Éric Maurice, une dernière question, parce que on l'a évoqué tout à l'heure aussi dans le journal, mais c'est vrai que ça a fait sursauter beaucoup de gens dans l'après-midi, cette intitulée devant le grec Margaritis Finas qui est chargé de l'immigration, chargé de la protection de notre mode de vie européen. C'est quand même une drôle de formulation, c'est une formulation inédite.
Alors, c'est totalement inédit. C'est vrai que c'est très délicat comme appellation. Cependant, il faut être clair. D'une part, il est vice-président, donc il couvre plusieurs domaines. Il y a la migration, mais il y a aussi, par exemple, la formation des gens pour avoir un emploi qualifié. Donc, c'est aussi maintenir une sorte de mode de vie. Il y a d'autres domaines comme ça. Et la politique migratoire reste dans le portefeuille des affaires intérieures. Donc, ce ne sera pas lui tout seul qui est en charge de la migration.
Les mots ont un sens. Ça dit quelque chose quand on décide d'une formulation de ce type.
Tout à fait. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à Bruxelles, on prend conscience que dans l'esprit de beaucoup d'Européens et de beaucoup d'électeurs européens, il y a un sentiment de vulnérabilité, il y a un sentiment d'angoisse par rapport aux évolutions du monde, dont l'une d'elles est la migration. Alors, ça peut être maladroit dans l'appellation, mais c'est le signe qu'aujourd'hui, on essaie de prendre en compte tous les facteurs qui poussent les gens soit à ne pas voter, soit à voter pour des partis xénophobes, anti-européens.
Une sorte de signe de la main aux populistes, finalement.
De signe de la main, ou d'essayer de montrer qu'on essaie de trouver des solutions. Il y a aussi une vice-présidente pour la démocratie et la démographie, et là, on fait le lien avec les inégalités entre les territoires, avec l'afflux des cerveaux dans certains pays de l'Union européenne, et donc c'est un peu le même raisonnement, d'essayer de voir pourquoi les électeurs votent pour des partis anti-européens, des partis protestataires. Et c'est peut-être un travail de fond qui commence. Après, c'est sûr qu'il faut trouver la bonne voie politique, et elle est peut-être étroite.
Et on verra si cette formulation résiste, elle aussi, allez savoir. Merci beaucoup, merci Éric Maurice de votre passage dans Un jour dans le monde. Et à très vite.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Et la suite, c'est le bruit du monde entre la Chine et la Corée, avec des réfugiés coréens du Nord harcelés. Amélie Berrier, le bruit du monde aussi sous les radars, notamment au Malawi.
Et au Malawi, effectivement, pour un concours de beauté avec une Miss Albinos, c'est la première au Malawi.
Julia Foyce, passons genre dans le monde.
Oui.
Bah, je vous en prie.
Oui, une première guépard à Sarajevo.
D'accord. Hein, Jean-Marc Four, juste avant 19h. Bonsoir, bonjour. Jean-Marc.
Oui, dans la série Je refile la patate chaude migratoire, voici le nouveau sous-traitant de l'Europe, le Rwanda.
Puisqu'on en parlait, allez, à tout de suite. Libérez-moi, Set Me Free de Kings dans Un jour dans le monde. À tout de suite.
Try. All you gotta do is set me free.
Le bruit du monde ce soir résonne en Chine, où il existe, le saviez-vous, des réseaux d'aide clandestins aux réfugiés nord-coréens. Des réseaux désormais harcelés par les autorités de Pékin. Ce sont les ONG sud-coréennes qui commencent à s'inquiéter. Et Frédéric Ojardias, vous nous expliquez comment ça se traduit d'abord cette répression accrue.
Eh bien, elle se manifeste par une hausse cette année des arrestations de Nord-Coréens cachés en Chine et des descentes de police qui visent les organisations clandestines qui les aident. Le pasteur Tim Peters gère depuis 20 ans l'un de ces réseaux. Il a aidé des centaines de Nord-Coréens à rejoindre la Corée du Sud.
Il ne fait aucun doute que la répression s'accroît. Même l'accès à la frontière sino-coréenne devient de plus en plus difficile et contrôlé. Certaines routes qui y mènent sont bloquées. Il y a plus de personnel, plus de patrouilles. Il y a aussi plus d'équipements sophistiqués de surveillance tels que détecteurs de mouvements et caméras thermiques. Et enfin, il y a plus d'écoutes de conversations téléphoniques. J'ai cessé de recourir aux planques, ces maisons où les réfugiés peuvent être cachés, déjà depuis plusieurs années. Elles ne sont plus sûres. Notre organisation a dû chercher des méthodes alternatives.
Les Nord-Coréens détenus par la police chinoise sont rapatriés de force en Corée du Nord, où ils risquent les camps, la torture, voire la peine capitale. Liberty in North Korea est une autre ONG qui a aidé 302 réfugiés à rejoindre le Sud l'année dernière, son directeur Park So-kil.
Par chance, cette répression n'a pas affecté notre organisation directement cette année. Mais plusieurs personnes à Yanbian nous ont dit que d'autres réseaux avaient cessé leur activité. En fait, c'est une tendance qui dure depuis plusieurs années, près de 10 ans maintenant, et que l'on peut lier à l'arrivée au pouvoir du président chinois Xi Jinping.
La Chine semble vouloir empêcher un afflux massif de réfugiés, un exode qui pourrait déstabiliser son allié nord-coréen. Mais cette répression accrue peut aussi s'expliquer plus simplement par la surveillance renforcée qui vise la population chinoise. Les Nord-Coréens en fuite se trouvent en quelque sorte pris dans les mailles du filet. C'est en tout cas ce que pense Chung Ki-won, pasteur à l'église d'Uriana à Séoul. Il dirige lui aussi un réseau clandestin d'aide aux réfugiés.
En Chine, pour prendre le bus ou le train ou pour acheter un téléphone, il faut montrer une carte d'identité. Il y a plus en plus de caméras qui reconnaissent automatiquement les visages. Cela facilite la détection des clandestins. Dans le passé, le plus difficile était de traverser les frontières. Aujourd'hui, c'est de traverser le territoire chinois.
La conséquence de cette répression, c'est que les fuyards nord-coréens craignent plus que tout d'être dénoncés à la police chinoise, ce qui en fait des proies faciles pour les réseaux mafieux. 60% des Nord-Coréennes en Chine seraient victimes de trafic sexuel, selon un récent rapport. Parmi elles, la moitié serait forcée de se prostituer. Un trafic auquel a échappé Kim Ye-jin, une Nord-Coréenne de 34 ans. Elle a trouvé refuge à Séoul il y a 9 ans, grâce au réseau du pasteur Chung Ki-won.
Ma mère, restée en Corée du Nord, me manque tant. Chaque fois que je pense à elle, cela me brise le cœur. Elle a tout sacrifié pour moi et mon frère. Je ne veux même plus la réunification des deux Corées. Tout ce que je demande, c'est que la Chine cesse de renvoyer les réfugiés en Corée du Nord. Parce que les souffrances, les tortures infligées par le régime aux rapatriés sont au-delà de toute imagination.
Le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme en Corée du Nord vient d'ailleurs d'appeler le gouvernement chinois à mettre fin à ces rapatriements forcés. Sans succès, parce que la priorité de Pékin n'est pas humanitaire, c'est d'éviter à tout prix un effondrement de son voisin et allié nord-coréen.
Frédéric Ojardia, c'est le bruit du monde dans Un jour dans le monde. Ça continue même sous les radars avec Amélie Perrier. Et le bruit du monde sous les radars, c'est celui, c'est ce qu'on entend la dernière, nous, Amélie, des camps de Rohingyas au Bangladesh.
Les Rohingyas, vous savez, c'est cette minorité musulmane. Ils vivaient en Birmanie, mais ils sont devenus la cible de l'armée et des bouddhistes radicaux. Persécutés, ils ont fui par centaines de milliers dans le pays voisin, au Bangladesh, où ils s'entassent dans des camps insalubres. À ces Rohingyas, qui ont déjà tout perdu, eh bien, le Bangladesh a décidé hier de couper le téléphone. Les opérateurs ont la semaine pour rendre des comptes aux autorités, pour couper les communications dans les camps. Une mesure de rétorsion après les violences des dernières semaines dans les camps. Les autorités bangladaises se justifie en parlant de mesures de sécurité. Les mobiles serviraient à communiquer pour des trafics de drogue entre le Bangladesh et la Birmanie, du trafic de méthamphétamine surtout. Mais pour les Rohingyas, ils sont près d'un million dans le sud-est du pays, c'est une violence de plus dans un quotidien infernal. Alors voilà Mohamed qui dit à la télévision South Asia Newsline, si les téléphones mobiles sont déconnectés, ça va être un gros problème pour nous. On ne pourra plus parler à nos familles, on a des proches hors des camps. Moi j'ai des frères, dit-il, qui vivent en Arabie Saoudite et à Dubaï. Si on ne peut plus appeler à l'étranger, comment j'aurai de leurs nouvelles? Eux ne pourront pas nous joindre non plus, savoir comment nous allons. Si les cartes SIM sont bloquées, dit-il, ça va être un énorme problème. Voilà, beaucoup dépendent aussi de transferts d'argent envoyés par leurs proches à l'étranger et gèrent les transactions sur leur téléphone. En tout cas, la peur s'est installée dans ces camps de réfugiés, insécurité, des centres de police qui parfois abusent de leurs armes, disent les défenseurs des droits humains. Un responsable de l'ONU affirme qu'isoler les réfugiés déjà persécutés en leur coupant le téléphone n'allait rien arranger. Au contraire, certains risquent de trouver refuge dans la violence et le crime. S'inquiète toujours ce responsable.
Les nouvelles technologies au cœur de la campagne électorale en Israël aussi.
Et tous les coups sont permis. Haaretz, le grand quotidien, nous apprend aujourd'hui que le Likoud a été visé par une cyberattaque. Le site du Parti National Libéral du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été infiltré. Les internautes ont alors pu accéder à un répertoire géant. 4 millions de noms avec des adresses, des numéros de téléphone, les numéros des cartes d'identité et les préférences politiques. La liste a été publiée sur le site du Likoud, totalement ouvert à son insu. Et tout cela pose question sur la sécurité informatique au sein du Likoud, car il y a quelques mois, le parti de Netanyahou en faisait un argument pour se moquer de son principal adversaire, Benny Gantz. Alors voilà, c'est un montage du Guardian qui superpose les voix de Netanyahou et de Gantz proclamant leur victoire à l'issue des dernières élections. C'était il y a 5 mois. Leur mouvement obtenait chacun 35 sièges à la Knesset, le Parlement, après une campagne très rude. Des clips outranciers, des infox et même donc le piratage du téléphone de Benny Gantz. Le Likoud ne s'était pas privé pour se moquer des insuffisances en matière de sécurité informatique de l'alliance blanc-bleu, bleu-blanc de Gantz. Selon les derniers sondages, et bien pour le scrutin du 17 septembre prochain, Likoud et Alliance Bleu-Blanc sont encore une fois au coude à coude.
Et puis Amélie, on termine avec donc un concours de beauté un peu particulier, ça se passe au Malawi.
Oui, le Malawi, c'est ce pays que j'aime beaucoup, vous le savez, dans le sud-est de l'Afrique. Là-bas viennent d'être sacrés un Mister et une Miss Albinisme. La gagnante, c'est Chikondi Kajanza. Ouais, elle est très très heureuse, elle le dit à l'AFP. Je ne m'attendais pas, dit-elle, à être la toute première Miss Albinisme au Malawi. Ce que je vais faire maintenant, c'est de sensibiliser les communautés, en particulier les communautés rurales, qui ont des comportements très négatifs contre les albinos, des mythes et des idées fausses contre les personnes atteintes d'albinisme. Effectivement, beaucoup sont encore persécutés, ils vivent en marge, difficile pour eux de trouver leur place là-bas. Alors ce concours de beauté, une fois n'est pas coutume, fera peut-être progresser les mentalités.
Eh bien c'est le but, Amélie Perrier, merci beaucoup et bravo pour l'ensemble de votre œuvre. Une nouveauté dans la playlist d'Inter en cette rentrée. Lizzo, Cause I Love You.
What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that again, I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that
bien compris le message, Lizzo. Merci beaucoup et revenez quand vous voulez, surtout dans Un jour dans le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
La langue dans sa poche, c'est pas son genre, à Julia Foyce, qui toutes les semaines nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On file en Bosnie pour commencer.
Ça, c'est le bruit qu'a fait la toute première marche des fiertés homosexuelles organisée à Sarajevo. Dimanche, 2000 personnes ont défilé poings levés et drapeaux arc-en-ciel dans les rues de la ville. Officiellement, la loi bosniaque interdit toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Mais les couples d'hommes ou de femmes n'ont toujours pas le droit de se marier ou d'avoir des enfants. La route est encore longue donc, mais dans la mesure où la Bosnie était le dernier pays balkanique à ne pas avoir de gay pride, l'événement marque un point de bascule et ses opposants ne s'y sont pas trompés. Ils étaient 150 environ à vouloir stopper le cortège. Membres de partis politiques conservateurs ou d'associations confessionnelles, ils ont prié pour que le déluge s'abatte sur les manifestants. Autant dire, Fabienne, qu'il faisait très beau et que ça n'a donc pas fonctionné. Même pas pu avancer d'un mètre, freiné dans ce bel élan d'enthousiasme homophobe par les policiers anti-émeutes déployés pour protéger la Pride. Jamais nous n'avons vécu une telle humiliation, s'étranglait l'un des leaders de la contre-manifestation. Et moi, je l'enverrais bien à Boston, tiens.
À Boston.
Oui, capitale du Massachusetts, historiquement très ouverte sur la question de l'homosexualité. C'est pourtant là-bas que s'est tenue la semaine dernière et dans l'embarras général, la toute première Straight Pride, entendez, marche des fiertés hétérosexuelles. Tolérance pour tout le monde, pas seulement pour la communauté LGBT, c'était le mot d'ordre, et les organisateurs de déployer l'argumentaire. Nous nous battrons pour le droit des hétérosexuels du monde entier d'exprimer leur fierté sans craindre le jugement ni la haine. Les hétérosexuels sont une majorité opprimée. C'est vrai que c'est chaud. d'être hétéro. Discriminé à l'embauche, moqué dans les cours de récré, insulté, voire castagné en pleine rue, tout ça parce qu'il voudrait pouvoir tranquillement aimer une personne qui ne soit pas du même sexe qu'eux. Mais ça, non, maintenant, pas le droit. Dans une ville, dans un pays, dans un monde, même où l'écrasante majorité est homosexuelle, où les meilleurs postes, les meilleures places ne vous reviennent que si vous en acceptez les codes arc-en-ciel. Un peu comme pour les blancs en France, hein, victimes d'un racisme odieux à cause de leur couleur de peau, vous voyez. Mm-hmm. Non. Non, personnellement, je ne vois pas plus que le maire de Boston, d'ailleurs, qui n'a pas pu juridiquement empêcher cette straight pride, mais qui s'en est dit à titre personnel un tout petit peu gêné. À la fois, on ne les a pas loupés ni dans la presse, ni sur les réseaux sociaux où les manifestants ont été très largement critiqués. La palme du tweet revient à l'acteur Chris Evans, qui suggère de remplacer marche des fiertés hétérosexuelles par marche des... Nous essayons désespérément d'enfouir nos propres pensées gays en étant homophobes parce que personne ne nous a appris à gérer nos émotions quand nous étions petits. Un peu facile, ok, mais pas totalement faux non plus.
Ça fait beaucoup de caractère. On continue notre Women LGBT World Pride avec un détour par l'Afrique du Sud.
Et plus précisément devant le Parlement du Cap, où se sont rassemblées des milliers de femmes en colère, habillées en violet, couleur des mouvements féministes, ou en noir, couleur du deuil évidemment. Elles demandaient au gouvernement des réponses urgentes face à des listes de victimes qui ne cessent de s'allonger. 30 féminicides pour le seul mois d'août et sur l'année, on compte 137 infractions sexuelles en moyenne par jour en Afrique du Sud. Le président Ramaphosa a promis aux manifestantes de faire changer la loi pour que les violences sexuelles, sexistes, conjugales ne restent pas des crimes impunis. Et c'est alors que l'émoi se propagea à toutes les villes du pays. Des milliers d'hommes se sentant discriminés, bafoués, humiliés, sont descendus dans la rue pour réclamer le droit de pouvoir violer ou castagner peinard. Je déconne.
Allez, on termine avec la Grande-Bretagne où les fabricants de dentifrice sont en train de doper leurs ventes.
Et pas forcément pour des raisons d'hygiène dentaire, c'est plutôt de performance pénienne qu'il s'agit. Au moment où l'on se parle, Fabienne, des petits tutos rigolos pullulent sur les réseaux sociaux. On y apprend aux hommes à soindre le pénis de dentifrice afin de gagner 30 minutes d'érection supplémentaire au lit. Le problème, c'est que ces vidéos totalisent des millions de vues, d'où l'inquiétude des médecins, d'où ce cri d'alarme très officiellement relayé par le Daily Mail cette semaine. Warning, gentlemen, l'étalage de pâte à dents sur verge fatiguée n'aidera jamais personne à bander. En revanche, comme tout produit chimique sur muqueuse fragile, le risque de blessure et de brûlure n'est pas négligeable. Un peu comme l'ail dans le vagin. Vous vous souvenez, Fabienne, hein, cet engouement subi qu'avaient eu les femmes en Grande-Bretagne aussi pour leur hygiène intime et pour la gousse d'ail. Là encore, la mode avait pris sur YouTube. Là aussi, les médecins s'étaient fendus d'un communiqué officiel. Et ben voilà, comme quoi l'égalité, ça s'attrape aussi dans les tutos rigolos.
Voilà, je crains que cette info soit la seule qu'on retienne de ces deux heures d'info. Et croyez-moi, ça me navre. Voilà, vous pouvez quand même continuer à vous laver les dents. C'est un peu le message du jour.
Et allez. Le pénis hein, aussi.
Fabienne Saint-Es, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, ce soir, vous vous intéressez à un accord passé largement inaperçu en Europe. Le Rwanda, donc en Afrique centrale, va accueillir des réfugiés en provenance de Libye, initialement candidat à l'exil vers l'Europe. Cet accord n'est pas anecdotique, il est même très révélateur de la nouvelle carte des flux migratoires et de l'évolution des politiques en la matière. C'est votre Monde à l'envers.
Alors cet accord, le voici, vous le trouverez d'ailleurs sur le site de France Inter, bien sûr, signé ce matin par le Rwanda, l'Union africaine, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Il prévoit donc en effet le transfert d'une première vague de 500 réfugiés retenus dans les centres de transit libyens. Direction donc le Rwanda dans la région des Grands Lacs africains, à 6000 kilomètres plus au sud. Et il ne faut pas s'y tromper, il s'agit en fait d'un accord indirect avec l'Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pays européens sont les principaux bailleurs de fonds du HCR. Premier enseignement de cet épisode, il confirme la volonté occidentale de repousser les migrants le plus loin possible. 6000 km, c'est un peu comme si on envoyait quelqu'un de Paris en Sibérie. Rembobinons le film. D'abord, l'Europe, on le sait, a fermé ses frontières. Le flux s'est arrêté, divisé par 8 en direction de l'Italie en l'espace de 2 ans. Et comme les Européens n'arrivent pas à se répartir les réfugiés entre eux, ils refilent la patate chaude. Ils l'ont d'abord refilé à la Turquie, 6 milliards d'euros débloqués pour que le régime Erdogan conserve plus de 3 millions de Syriens sur son sol. Ensuite, l'Europe a financé les gardes-côtes libyens, mais ils sont de mèche avec les trafiquants. Un diplomate qui connaît bien le dossier estime que toutes les milices en Libye profitent du business des centres de rétention. Puis l'Europe a donné de l'argent au Niger, plus au sud, 1 milliard d'aides au développement pour que là aussi les militaires nigériens empêchent l'exode. Et donc maintenant, c'est le tour du Rwanda, encore plus loin géographiquement.
Alors en même temps qu'il y a une solution africaine à un problème qui est essentiellement un problème africain, c'est pas forcément une mauvaise idée.
C'est vrai. Et là aussi, cet accord avec le Rwanda, c'est un symbole fort d'une implication africaine. C'est le deuxième enseignement. Dans le cas précédent du Niger, on était en présence d'un pays de transit. Hein. Il est sur la route des migrants d'Afrique de l'Ouest qui cherchent à gagner l'Europe. Avec le Rwanda, c'est différent. on passe à un autre stade, si vous voulez, ce pays n'étant rien sur la route des migrants vers l'Europe. Et pourtant, il se porte volontaire pour accueillir d'emblée 500 personnes originaires de la Corne de l'Afrique, le Soudan, l'Érythrée. Ces personnes seront logées à Bouguessera, dans le sud du pays, et le Rwanda leur garantit l'accès à l'éducation, à la santé, voire à un emploi si ces réfugiés restent définitivement. Le régime de Paul Kagame va même plus loin, il se dit prêt à accueillir 30 000 réfugiés au total, ce qui est considérable pour un pays de 12 millions d'habitants. On est donc bien en présence d'une volonté politique du Rwanda de tendre la main à d'autres Africains. Et plus globalement, l'Union africaine revendique aussi cette logique. Ce qui me conduit au troisième enseignement de cet épisode, c'est que c'est le reflet de la transformation des routes migratoires. En Afrique, les migrants en majorité ne se déplacent plus vers l'Europe, mais vers un autre pays africain. Selon l'Union africaine, 8 migrants sur 10 se déplaceraient à l'intérieur du continent. Donc il est temps de mettre à la poubelle le cliché populiste sur l'Europe envahie.
Et cette situation nouvelle a des conséquences, évidemment.
Alors, elle peut en avoir plein de conséquences. D'abord, elle a un coût financier. L'Europe paie la facture en déboursant des milliards pour repousser ses candidats à l'immigration. Il y a aussi un coût politique à la clé. Dans le cas de la Turquie, on le sait, le régime très autoritaire d'Erdogan fait du chantage aux Européens en menaçant d'ouvrir les vannes de l'immigration. Il a réitéré d'ailleurs cette menace la semaine dernière encore. Dans le cas du Rwanda, le président Kagame a évidemment des arrière-pensées en acceptant ce deal. Il a pour ambition d'être l'un des leaders du continent et on fait le choix de l'aider donc dans cette entreprise. Enfin, il peut aussi y avoir des conséquences économiques, sociales pour ces pays d'accueil. Au Niger, par exemple, le pays a du mal à gérer les flux de migrants rejetés par l'Europe. Chômage, trafic de drogue, délinquance, le paysage est assez inquiétant. Dans d'autres endroits, ça peut conduire à des émeutes xénophobes. On en a parlé ces derniers jours en Afrique du Sud, avec ses dérives très violentes, en particulier contre les immigrés nigérians. Mais bon, du point de vue européen, tout ça possède un mérite. Tout ce petit monde est très loin. Et les réfugiés ne sont plus qu'un sigle, ETM pour Emergency Transit Mechanism, mécanisme de transit d'urgence.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, à demain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour et le téléphone sonne.